Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Bienvenue dans le quart d'heure des spécialistes. Aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité du mondial avec vous, Cyril Maillard. Bonjour.
Bonjour Michel.
Merci d'être déjà en direct avec nous dans les tsars du ballon rond. On laisse le soin à Jérôme de nous dresser votre portrait. Cyril Maillard, vous êtes jurassien originaire de Boncourt, né le 27 juin 1968, la même année que l'assassinat de Martin Luther King, qu'un tremblement de terre qui a fait 15 000 morts en Iran, et d'une insurrection à Oman. Tiens, Oman, on y reviendra plus tard. Mais 1968, c'est aussi l'année du dernier train à vapeur au Royaume-Uni. Vous avez donc un lien avec le dernier train à vapeur du Royaume-Uni, ce qui nous fait mieux comprendre votre chute lors d'un certain test de course en salle et qui a fortement été médiatisé sur la toile. En 1988, vous faites partie de la promotion, non pas sur le terrain, mais de la promotion du lycée cantonal de Porrentruy. Vous parlez français, anglais, espagnol et allemand, mais à une certaine heure de la nuit, par moment d'égarement, vous parlez une cinquième langue que peu de gens arrivent à traduire. Vous avez été formé à l'US Boncourt et vous avez joué avec ce club jusqu'en première ligue. Vous êtes ensuite passé par Servette, Neuchâtel, Xamax, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Bienne, Porrentruy pour terminer comme entraîneur-joueur au FC Courtaitel dans le Jura. Ce parcours force le respect et comme dirait Constantin, vous n'êtes pas une lopette. En 2008, vous commencez à travailler à Neuchâtel, Xamax, un poste que vous quittez l'année suivante. En 2012, vous vous engagez avec le FC Bienne comme chef de la préformation, mais vous quittez ce poste 6 mois plus tard. Alors les mauvaises langues pourraient dire « Ah, eh ben, s'il est comme ça dans la vie privée, ce qui tombe bien puisque vous êtes célibataire. Avis à toutes les femmes qui nous écoutent, quel bel homme !» En 2014, vous commencez de travailler pour la fondation Gilbert Facchinetti et là, vous y êtes encore aujourd'hui. Vous devenez fidèle en travail, champagne, joie, bonheur, la vie est belle. Mais ce parcours sera entrecoupé de destinations étonnantes, comme le Koweït avec Nestor Clausen ou encore Al Nasser, un club de Riyad. Mais vous partez aussi comme entraîneur assistant de l'équipe nationale d'Oman. Tiens, Oman, avec Gabriel Calderon comme entraîneur principal. Cette histoire se termine en cul de poisson après quelques mois, mais était-ce vraiment une surprise? Un pays où il n'y a pas d'alcool et où les femmes sont voilées n'est pas un pays pour Cyril Maillard. On l'a dit, depuis lors, vous êtes responsable des talents de la Fondation Gilbert Facchinetti. Vous vous sentez bien, Neuchâtel, même si dans le lac, il y a des poux de canard. Et d'après nos informations, vous avez aussi un talent caché pour monter sur scène, déguisé en je ne sais quoi, pour faire rire le public. Oui, des espions à nous vous ont vu et sont toujours sous le choc suite à cela. Cyril Maillard, on se souviendra de vous comme étant une personne attachante et aimant la vie. D'ailleurs, l'augmentation de votre tour de taille ces dernières années en est la meilleure représentation. Mais Cyril Maillard, vous êtes aussi une personne qui a compris que l'avenir, c'était les jeunes, et c'est pour ça que vous y consacrez votre énergie et franchement, c'est louable. Alors pour tout cela, on vous dit merci Cyril. C'est un joli portrait, Cyril Maillard.
Il est assez drôle, je ne suis pas trop surpris de la part de Jérôme, mais c'est vrai que ça fait un peu le tour du personnage. Quoi.
Ça fait le tour, c'est correct.
C'est correct.
Cyril Maillard, vous êtes bien évidemment avant tout là pour décortiquer l'actualité du mondial. Revenons rapidement sur la victoire du Portugal tout à l'heure, 1-0 contre le Maroc. Victoire, on va dire, chiche de la part du Portugal.
Oui, mais ce qui compte finalement, c'est les 6 points, ou les 3 points de ce match. Donc le Maroc a bien joué durant pratiquement les 180 minutes, et puis finalement se retrouve avec 0 point, éliminé de la Coupe du Monde, après seulement 4 ou 5 jours de compétition. Donc c'est vrai que si j'étais marocain aujourd'hui, je serais un petit peu déçu, voire un peu frustré, parce que elle a proposé du jeu. Puis en face, vous avez Cristiano Ronaldo, qui est pour l'instant le grand monsieur de cette Coupe du Monde.
Oui, ça c'est assez rigolo d'un côté. En tout cas pour nous, quand on regarde les articles sur Internet, les articles de la presse, on parle quasiment toujours de Ronaldo, mais c'est une vérité finalement, le Portugal est en Ronaldo-dépendance, peut-être trop pour aller loin dans la compétition.
Je ne sais pas, ils ont été champions d'Europe il y a 2 ans en France, donc Ronaldo répond toujours présent, il vient de battre un nouveau record, celui qui a marqué le plus de nombre de buts dans toute l'Europe, donc ça veut dire qu'il est arrivé à 85 buts en matchs internationaux, c'est juste extraordinaire, donc on a la chance de pouvoir assister à ce monsieur, parce que tout le monde pensait que le record de Puskas ne serait jamais battu, puis finalement c'est incroyable, parce que autant dans son club au Real Madrid qu'avec l'équipe nationale du Portugal, il répond présent, il est là au grand moment, et je crois que c'est un bonheur de le voir, même si il fait aussi pas mal parler de lui d'une manière un peu plus négative, mais je crois qu'on doit, en tout cas nous comme formateurs, c'est un exemple pour les jeunes.
Néanmoins, si on revient sur le Portugal de façon globale, on les a vus en nette difficulté contre une équipe comme le Maroc, alors qui est certes joueuse, mais quand même, c'est pas un des favoris de la compétition. Est-ce qu'on peut s'inquiéter notamment de la défense vieillissante du Portugal?
Non, je crois pas. Faut toujours se rappeler qu'il y a 2 compétitions. La première compétition par groupe et puis la deuxième compétition qui est par élimination directe. Pour rappel, le Portugal a fait 3 matchs nuls dans sa phase qualificative à l'Euro pour finalement s'imposer face à la France. Donc je crois qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont en confiance. C'est toujours un peu trop tôt maintenant de savoir ce qui va se passer. Après, il y a aussi un petit peu le destin de savoir quel adversaire. Et puis, on sait qu'en Coupe du Monde, ça peut se jouer un poteau, un pénalty. Donc le Portugal fait son match. Je pense que quand on le voit jouer le match contre l'Espagne, on a assisté certainement au meilleur match de cette phase de Coupe du Monde. Donc attention aux Portugais.
On arrive gentiment à la mi-temps du match entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, toujours 1-0 pour l'Uruguay. Les Uruguayens, ils ont peiné face à l'Égypte, ils peinent encore face à l'Arabie Saoudite. On en faisait un des gros outsiders, si ce n'est l'outsider principal de la compétition. Vous les voyez aller loin ?
Ouais, disons, je pense qu'ils vont se qualifier dans ce groupe. Je crois que c'est assez clair. L'Uruguay et la Russie seront les deux qui vont passer. Ensuite, de quoi? Ça dépendra de l'adversaire direct. Mais l'Uruguay est une équipe avec un tempérament de combattant. On connaît son passé. C'est une équipe avec laquelle il faut toujours se méfier, même si aujourd'hui, il dégage pas une sérénité incroyable.
Alors la journée d'hier a été marquée par la fin de la première journée de cette phase de groupe. On a vu des nations favorites, très favorites, trébucher, notamment l'Allemagne, des formations favorites peinées, c'est le cas de la France. Qu'est-ce que vous retirez de ce premier tour d'un point de vue des gros favoris? On pourrait ajouter le Brésil également?
Oui, bien sûr, vous avez raison. L'Argentine, l'Allemagne, le Brésil n'ont pas amené une quiétude et un jeu qui était extraordinaire. Mais attention à ces équipes-là, elles ont un potentiel énorme et puis elles vont réagir, ça j'en doute pas. Maintenant, comme on l'a dit, ça permet aussi de voir d'autres nations qui font leur tournoi. Si on prend la Suisse, c'est pratiquement un exploit quand on voit l'équipe du Brésil, les joueurs qui forment cette équipe. Mais en même temps, c'est pas grand-chose parce que vendredi, la Suisse n'a pas le droit de perdre. Elle perd le match vendredi, elle est pratiquement éliminée du mondial. Donc, il faut toujours faire attention. On fait un exploit, entre guillemets, mais en même temps, c'est le seul match suivant qui sera le plus important.
On a vu des favoris un petit peu à la traîne, un petit peu à la peine, des outsiders qu'on pouvait qualifier en tant que tels un petit peu à la peine. C'est le cas de l'Uruguay. Est-ce qu'une nation qui vous a en particulier séduit, qui pourrait être pour vous la pépite, la surprise de cette QV 2018?
Ouais, je dirais que on a vu un grand match entre l'Espagne et le Portugal. Ça, c'était, en tout cas, en tant qu'esthète, c'était magnifique. Puis je crois le Mexique par rapport à sa débauche d'énergie et surtout cette façon d'avoir vraiment lâché les chevaux entre guillemets et d'avoir vraiment inquiété au plus mal d'une équipe d'Allemagne qu'on a rarement vue aussi à la peine et surtout le score a presque pu être de 2 à 3-0 à un moment donné. Donc je dirais le Mexique sur ce premier tour, mais encore à suivre parce que il y a tout un contexte qui fait que les matchs vont venir avec beaucoup plus de pression. Et puis ensuite de quoi? Le deuxième tour, lorsque vous avez ces confrontations directes, ça passe ou ça casse. Donc c'est toujours délicat entre ce qui nous a plu et l'efficacité.
Le Sénégal qui sauve un petit peu l'aura des pays africains au premier tour, en tout cas lors de la première journée, avec la manière en plus.
Oui, totalement. Je dois dire que c'est une équipe qui me plaît bien parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal et j'ai pas mal d'amis sénégalais. Donc c'est vrai que je suis un petit peu plus cette équipe que les autres équipes africaines. Elle a assez étonné, mais elle a été aussi un peu aidée par une équipe polonaise qui était un petit peu en dedans et qui a fait quelques cadeaux durant ce match, mais ils en ont su en profiter. Donc à suivre par la suite parce que le groupe est très ouvert avec en plus la Colombie et le Japon, donc qui a aussi un peu surpris hier.
On va parler de l'Espagne maintenant qui joue ce soir à 20h son deuxième match contre l'Iran. Après le match contre le Portugal, festival, vous l'avez dit, entre les deux équipes. On peut dire que le tiki-taka aujourd'hui paie toujours.
Bon, il faut reconnaître que le football espagnol est un football de grande qualité. Aujourd'hui, ils arrivent à se renouveler. Ils ont des jeunes joueurs qui sont assez impressionnants. Et l'école espagnole est là depuis plusieurs années. On le voit aussi chez les jeunes, que ce soit moins de 21, moins de 19 ou moins de 17. Les équipes espagnoles sont toujours dans les phases finales et généralement sont très proches du podium. Donc, c'est pas tellement une surprise. Ce qui était plus surprenant, c'est ce qui s'est passé deux jours avant la Coupe du Monde où quelque part la fédération a pris une décision qui était assez choquante de se séparer de son entraîneur. Tant mieux que sur le premier match, on n'a pas eu le sentiment que l'équipe était perturbée. Je pense que ce soir, on va certainement voir une équipe qui a presque l'obligation de gagner son match. Elle joue contre un adversaire qui n'a pas été extraordinaire lors de son premier match, mais À voir, mais disons que l'Espagne reste quand même une équipe qui fait partie de mes favoris de cette Coupe du Monde.
Rapidement, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on limoge l'entraîneur Lopetegui, on reprend Fernando Hierro à deux jours d'un mondial, et puis ça roule finalement. C'est le fait d'avoir des joueurs comme Busquets, comme Ramos, comme Piqué, comme Iniesta, vraiment une ossature, presque des entraîneurs à eux tout seuls finalement.
Oui, j'imagine que quelque part, en tout cas, vous n'avez pas besoin de tout leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Ils sont assez bons, etc. Après, il faudra voir dans des moments clés d'un match, lorsqu'il faut changer de tactique, lorsque vous êtes mené au score, lorsque vous aurez un match à confrontation directe, qu'est-ce qui va se passer là. Et Hierro a peu d'expérience à ce niveau-là. Même si ses joueurs eux-mêmes sont tous des gens qui ont tout gagné pratiquement, la patte de l'entraîneur dans ces moments-là et la confiance qu'il arrive à donner à son groupe, les choix tactiques qu'il va faire, les changements qu'il va faire. Alors, à voir, peut-être qu'aussi le fait que l'équipe à Lopetegui était aussi là, donc est toujours là, donc c'est un petit peu un grand point d'interrogation.
Est-ce qu'on a pu constater aussi lors des premiers matchs, vous qui avez entraîné dans le golf, Cyril Maillard, c'est qu'il y a quand même une grosse différence dans la qualité de jeu entre l'Iran, l'Arabie Saoudite par exemple et les autres pays. Qu'est-ce qu'il explique d'après vous, c'est la faiblesse entre guillemets de leurs championnats respectifs?
Alors c'est un petit peu le cas. Il faut savoir que dans ces pays-là, le nombre d'étrangers est limité à deux, voire trois. Le football n'est pas forcément développé comme il est chez nous. Alors et vous n'avez pas la possibilité avec une baguette magique de tout modifier. Je prends l'exemple de la Chine qui voulait que son pays soit le football soit le sport numéro un en Chine. C'est très très compliqué. Ils ont fait des éliminatoires très difficiles. Et on retrouve toujours un petit peu les mêmes équipes. Vous avez toujours le Japon qui est qualifié, la Corée qui est qualifiée, l'Australie qui est aussi dans cette zone Asie. Et puis après, ben c'est soit l'Arabie, soit l'Iran, soit l'Irak une année, etc. Donc on a quand même des niveaux qui sont assez clarifiés.
Mais pourtant, les attentes sont nombreuses. On prend l'Arabie Saoudite par exemple.
Oui, les attentes sont nombreuses parce que les gens aiment le foot et quelque part, on est un petit peu en dehors de la réalité. Pour preuve, il y a trois ou quatre joueurs d'Arabie Saoudite qui sont partis en Espagne durant le deuxième tour dans l'optique d'essayer de pouvoir s'imposer et de renforcer en fait sa propre équipe nationale. Puis on s'est rendu compte que ces joueurs-là ne pouvaient pas jouer en première division espagnole. Donc imaginez, si les meilleurs joueurs du pays ne peuvent pas jouer dans un club modeste d'Espagne, ça montre bien aussi le niveau général du football dans son pays.
On en est loin pour le moment d'une progression fulgurante entre guillemets du football du golf.
Oui, je crois, parce que en fait, si on regarde l'histoire, vous vous souvenez certainement du fameux match France-Koweït de 82 où un Cheikh était venu sur le terrain. Le score final 4-1 pour la France. On se retrouve pratiquement 30 ans plus tard. Et puis on a toujours cette différence-là. Donc ça veut dire que c'est pas que les équipes sont mauvaises, mais sur des compétitions aussi compliquées, aussi difficiles, ben quelque part ça pardonne pas. J'en veux pour preuve la première mi-temps ici où l'Uruguay fait pas un match extraordinaire, mais au final, on serait pas étonné que le match termine avec 2 ou 3-0.
Dans 4 ans, la Coupe du Monde, elle se déroulera au Qatar. On imagine du coup que les pays du Golfe auront à cœur d'y briller. À vous entendre, le laps de temps est trop court pour qu'une Arabie Saoudite, un Qatar par exemple, puisse ne serait-ce que faire douter les nations moyennes d'Europe.
Ouais, on a eu une fois en Corée. La Corée a mis de gros moyens pour pouvoir préparer sa fameuse Coupe du Monde Corée-Japon en 2002. Et là, la Corée avait été assez magnifique. Ils avaient préparé ça pratiquement 6 mois à l'avance. Toute l'équipe était déjà en place. Mais la Corée a une culture de football et les clubs de Coréens ont un certain niveau. Moi, ça me paraît très, très compliqué, même si ils essayent de faire, entre guillemets, transférer par le biais de nationalité étrangère pour pouvoir jouer pour le Qatar. Ça me paraît très, très compliqué parce que j'en veux pour preuve aussi les pays africains qui sont de très, très grands footballeurs. Et aujourd'hui, on a quand même de la peine à trouver une équipe africaine capable de vraiment rivaliser et de pouvoir atteindre le dernier carré.
Cyril Maillard, merci d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite à vous aussi une toute belle Coupe du Monde.
Merci beaucoup.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.